Bonjour, bonjour, auditrices et auditeurs de Radio Galère pour cette émission Livres et Amis du mercredi 12 avril, enregistrée à Lyon par Dominique et Françoise et transmise par la technique de Sidi. Le combat continue et pour le soutenir par une référence historique bien reconnue, nous vous lisons aujourd'hui le livre de Éric Vuillard, 14 juillet. Éric Vuillard, nous le connaissons. Écrivain et cinéaste, né à Lyon en 1968, il a reçu de nombreux prix. Et il y a quelques mois, nous avons lu son roman de 2022, une sortie honorable concernant les déboires de la France au Vietnam, qu'on appelait à l'époque l'Indochine. Mais revenons à ce roman précédent, paru en 2016, 14 juillet. Et oui, la prise de la Bastille, puisqu'il y a dans notre monde actuel encore tant de Bastilles à prendre, à faire tomber, à démolir. 14 juillet de Éric Vuillard, c'est le récit heure par heure et à certains moments minute par minute de cette journée de soulèvement populaire qui devient révolutionnaire contre le pouvoir, contre le roi, contre les privilèges des nantis, des trop riches. Nous allons suivre, presque au fil de la chronologie, la montée de la colère du peuple et la riposte violente, mais bientôt impuissante, des régiments qui lui font face. Éric Vuillard s'attarde parfois sur des portraits individuels, puisque certains héros de la journée sont passés à la postérité, mais nous donnerons la préférence aux descriptions des foules et de leur déferlement. Alors, en cette veille de 12 avril 2023, 12e jour de mobilisation, revivons le 14 juillet 1789. Et commençons par évoquer les scandales économiques et sociaux de l'Ancien Régime, les excès de la fracture sociale qui se révèlent cette année-là encore plus insupportable, absolument insupportable.
Une folie est une maison de plaisance, extravagance d'architecte, outrance princière. Son allure légère, délicate, le libertinage des lumières à travers les innombrables fenêtres annonce le règne bourgeois de la maison secondaire. La folie Triton, aux dernières heures de l'Ancien Régime, fit vraiment parler d'elle. Sa gloire est d'avoir vu décoller une montgolfière avec dans sa nacelle deux hommes pour la première fois de l'histoire du monde. Le papier qui enveloppait le ballon venait de la manufacture Réveillon, installée à la folie Titon, au bourg Saint-Antoine à Paris.
Et sa seconde gloire
fut sa dernière. Le 23 avril 1789, Jean-Baptiste Réveillon, propriétaire de la manufacture royale de papier peint, s'adresse à l'Assemblée électorale et son district et réclame une baisse des salaires. Il emploie plus de 300 personnes dans sa fabrique rue de Montreuil. Dans un moment de décontraction et de franc-parler stupéfiant, il affirme que les ouvriers peuvent bien vivre avec 15 sols par jour au lieu de 20, que certains ont déjà la montre dans le gousset et seront bientôt plus riches que lui. Réveillon est le roi du papier peint. Il en exporte dans le monde entier, mais la concurrence est vive. Il voudrait que sa main-d'œuvre lui coûte moins cher.
Eh oui, il voudrait que sa main-d'œuvre lui coûte moins cher.
Marie-Antoinette avait lancé la mode. Elle en fit couvrir son boudoir. Amour serrant une colombe sous un dé floral. Angelot tirant à l'arc. Grotesque, pastoral, singerie. Et cette mode du papier peint, sublimement peint, pochoir, pinceau, s'était diffusée en Europe. C'est alors qu'entre deux fêtes somptueuses, faisant bouffer d'une main délicate son gilet framboise écrasé et rajustant son foulard crème, Jean-Baptiste Réveillon avait sérieusement médité la concurrence internationale faisant rage, la baisse des salaires. Or, le peuple avait faim.
Le peuple avait faim.
Le prix du froment avait monté, le prix du blé avait monté, tout était cher. Et voici qu'Henriot, fabricant de salpêtre, fit à son tour la même annonce. Dans les faubourgs, on commença à marmonner. Au cabaret le soir, on se réunissait, on criait, on invectivait, on buvait son petit verre en se demandant si on allait pouvoir longtemps payer son terme. Tout le monde était agité, inquiet. La nuit du 23 avril 1789 fut une longue nuit de palabres, de plaintes et de colère. C'était peu de temps avant l'ouverture des états généraux, plusieurs fois différés. On manifesta. Un jour, deux jours, en vain. Réveillon et Henriot devaient penser que ça leur passerait, qu'entre deux lampées de pinard, entre deux quignons de pain, ils l'avaleraient la pilule, il le fallait bien, et qu'ils retourneraient tous bientôt dans le matin s'agenouiller devant leur machine et turbiner pour vivre. Car il faut bien vivre, on ne peut pas passer sa vie place de grève à gueuler. Mais la protestation ne cessa point. C'est qu'une grande famine sévissait en France, on crevait. Les récoltes avaient été mauvaises. Bien des familles mendiaient pour vivre. Partout, des convois de grains avaient été attaqués, des greniers pillés, des magasins mis à sac. On brisait les vitres à coups de pierre, on éventrait les barriques à coups de couteau. Il y avait eu des émeutes de la faim à Besançon, à Dax, à Meaux, à Pontoise, à Cambrai, à Montlhéry, à Rambouillet, à Amiens. Partout, les magistrats avaient été insultés, leurs palais assiégés, des soldats blessés. C'était un peuple de femmes, d'enfants qui se rebellaient. Un peuple de chômeurs aussi. Pour 600 000 habitants, Paris comptait 80 000 âmes sans travail et sans ressources. Alors, on s'agita dans les taudis. L'après-midi du 27 avril, une foule percola de Saint-Marcel, réclamant le pain à deux sous et criant « Mort aux riches !» Devant l'hôtel de ville, on traîna deux mannequins, un pour Réveillon, l'autre pour Henriot. On les brûla. La tête de Réveillon crama sous les lampadaires. La fumée volait aux fenêtres, s'écrasait sur les rinceaux. On pleurait. Les magistrats se tenaient apeurés derrière les rideaux. Les cendres faisaient déjà de la boue. Autour de la place, les gardes françaises étaient en armes. Les femmes leur hurlèrent à la gueule, les bouches tordues dans la bouillasse de l'air, qu'on ne doit pas crever de faim. Les soldats les écartaient doucement, les encourageant à rentrer chez elles. C'est alors que tout commença. On se jeta d'abord rue de la Côte, où la demeure d'Henriot fut ravagée. La grande porte cassée, des bouts tenant encore à ses gonds de fer, on s'y engouffra dans un cri. Les femmes se ruèrent aux cuisines, ramassant dans leurs jupes du grain ou de la farine. Les hommes se mouchaient dans les tentures, les enfants pissaient en crapauds sous les tables. La foule coula entre les pièces, éberluée, roulant des barriques de vin, puis se sauvant dans le feu qui avait pris, crachant sur les portraits, chavirant, pataugeant dans un luxe inouï, en train de se détruire, curant les tiroirs, ratelant les placards, les armoires, le cellier, mais ça ne suffit pas. La colère monte autant que les salaires veulent baisser. Dans la journée du 28, l'émeute s'étend. On vient de tous les quartiers alentours, depuis l'autre côté de la Seine. La voilà la folie titon, là où le travail se change en or, là où la vie rincée mute en sucrerie, là où tout le turbin des hommes, quotidien, pénible, là où toute la saleté, les maladies, la boie, les enfants morts, les dents pourries, les cheveux filasses, les durillons, les inquiétudes de toute l'âme, le mutisme effrayant de l'humanité, toutes les monotonies, les routines mortifiantes, les puces, les gales, les mains rôties sur les chaudières, les yeux qui luisent dans l'ombre, les peines, les écorchures, le nic de l'insomnie, le niaque de la crevure, se changent en miel, en chant, en tableautin. La foule court dans les jardins de la manufacture. Des groupes s'arrêtent au pied de la maison, sous la façade sublime, admirant fronton, balustrade et éprouvant eux aussi un instant une sensation de grâce, d'équilibre, bluffés par le souci de proportion et de symétrie. Mais l'ordre et la beauté ne tiennent pas longtemps. Il vient à la foule une sorte de dégoût. Le charme ne prend plus. La majesté de la folie qui tombe se dilue dans les graviers de la cour. Il ne reste que la folie. Celle des grandeurs, avec son crâne percé de trous.
Le 28 avril 1789, la révolution commença ainsi. On pilla la belle demeure, on brisa les vitres, On arracha les baldaquins des lits, on griffa les tapisseries des murs. Tout fut cassé, détruit. On abattit les arbres. On éleva 3 immenses bûchers dans le jardin. Des milliers d'hommes et de femmes, d'enfants, saccagèrent le palais. Ils voulaient faire chanter les lustres, ils voulaient danser parmi les voilettes, mais surtout, ils désiraient savoir jusqu'où l'on peut aller, ce qu'une multitude si nombreuse peut faire, finalement. Dehors, il y avait une masse de 30 000 curieux. Mais ils étaient désarmés, ils n'avaient que des bâtons et des pavés. Et les gendarmes arrivèrent. La foule lançait une grêle d'injures et de sifflets. Depuis les toits, on leur lançait des pierres et des ardoises. On avait dépavé la rue de Montreuil. Ah ah, quel bonheur de caillasser les argousins! Pas de liberté qui ne passe par là. La cavalerie, toutefois, avança contre la foule. Les gens reculèrent dans la bave des chevaux face aux sabres qui brillaient. Et les soldats armèrent leurs fusils et tirèrent. Une première salve tua beaucoup de monde. La foule glissait le long des murs, se rencognait là où elle pouvait. On jetait encore des tuiles depuis les toits, on hurlait. Mais les fusils, à nouveau chargés, feu à volonté. Des dizaines de morts jonchent la rue. À ce moment, on se débande, on court, on se bouscule. Les femmes crient aux soldats de ne pas tuer, d'avoir pitié. Les coups repartent, les morts s'entassent, les cavaliers parcourent les rues, crevant le dos de ceux qui fuient. On parle de plus de 300 morts et d'autant de blessés. Les cadavres furent jetés dans les jardins alentours, sur les charrettes à fumier, entassés. Il y eut aussi quelques pendus, et puis on marqua au fer rouge les émeutiers, survivants, que l'on renvoya aux galères. Et l'on raconte que, à part celle du 10 août 1792, ce fut la journée la plus meurtrière de la Révolution. Et pourtant, ce n'était pas encore tout à fait la Révolution. Le 28 avril 1789, donc, des morts, des blessés, des prisonniers. Certains ont été torturés, fouillés. La police espérait trouver dans leurs poches des objets volés, mais rien. Les révoltés ont cassé, mais pas pillé. Détruit les objets, symboles de la richesse méprisante, mais n'ont pas cherché à s'en enrichir. Bien souvent, quand les scribes demandent aux familles de signer les dépositions pour récupérer les corps qu'ils sont venus chercher, on s'aperçoit qu'aucun ne sait écrire. La misère du peuple, encore accrue en 1789 par un hiver glacial, une grande disette printanière et donc une inflation terrible des prix du pain, est d'autant plus insupportable qu'elle s'oppose aux signes extérieurs de la richesse insultante des puissants. Et c'est le cas, par exemple, à Versailles. À Versailles, en effet, face à Paris, un petit peu loin de Paris, eh bien, finalement, on voit les richesses s'accumuler et on voit les richesses être transportées de Paris à Versailles.
Depuis sa cuvette calcaire plantée dans son limon, à l'ouest de la forêt de Meudon, Versailles, un marigot, une gâtine, et par la grande route qui vient de Paris, toute une procession de primeurs, de pâtissiers glaciers, bouchers, traiteurs, se rend au château. Longue file indienne de sucreries, macarons, génoises, volailles délicates, épinards frais, lentilles aussi fines que le sable, concombres juteux, belles poires d'Anjou. Oui, par les Champs-Élysées, on trimballe pour le roi tout ce que la France a de mieux, comme si un énorme gendarme réglait la circulation de nos victuailles. Le délectable et le gourmand prennent la direction de Versailles, le fade et le maigre, celle des faubourgs. L'exquis, le savoureux, cahote vers l'ouest de la capitale, l'aigre va aux masures. Le moelleux et le succulent galopent à la cour, l'insipide et le blet, s'en vont à Paris. Et surtout, à Versailles, on joue insolemment, inlassablement, follement, gaillardement, on joue des sommes considérables, tout Versailles joue. Le roi joue, la reine joue. Il y a des tables de jeu dans toutes les pièces, dans tous les bâtiments. Versailles est une couronne de lumière, un lustre, une robe, un décor. Mais derrière le décor, et même dedans, incrusté dans la chair du palais, comme l'essence même de ses plaisirs, grouille une activité interlope, clabaudante, subalterne. Ainsi, on trouve des fripiers partout, car tout se revend. À Versailles, tous les cadeaux se remonnaient et tout le reste se remange. Les nobles bouffent les rogatons de première main, les domestiques rongent les carcasses, et puis on se jette des écailles d'huîtres, des os par les fenêtres, les pauvres et les chiens récupèrent les reliefs, on appelle ça la chaîne alimentaire. Oui, depuis tous les coins du royaume, le palais, ses girandoles, ses fusées, ses masques, ses carrosses illuminées de torches, ses brandons, sa joie, attirer tous les métiers, tous les frotteurs de parquet, tous les gars de sauce, toutes les ambitions du bon bourgeois au gentilhomme, mais aussi les plus obscènes nécessités. Avec emphase, on nous enseigne le règne de chaque roi, ses épisodes, la prise du pouvoir par Louis XIV, la réforme du royaume, le bon Colbert, la régence, la guerre de succession d'Autriche, l'attentat de Damiens, le départ de la Pérouse. Mais on ne nous raconte jamais le reste. Afin de loger les 1500 personnes chargées de la bouche du roi, on avait exproprié toute la population de l'ancien village de Versailles. Oui, toute. Allez vous faire pendre ailleurs, maraud, pochard. On rasa le bourg, on rétama la terre afin de bâtir à sa place le grand commun, corps de logis sobre et harmonieux, exemple d'équilibre et de mesure. Et jusqu'au bout, jusqu'à la Révolution, Versailles verra une débauche de serviteurs innombrables, laquais de toutes espèces, tournebroches, violons, porteurs d'instruments, coureurs de vin, conducteurs de hackenay, verduriers, potagers, enfants de cuisine, tout cela à côté d'un ramassis de charges, dames de compagnie, pages et pas moins d'une quarantaine de valets de chambre pour le roi seul, moucherons sublimes voltant autour du lit royal, du miroir royal, du pot de chambre de Sa Majesté. Enfin, la nostalgie d'une vie rustique avait fait bâtir le hameau de la reine, farce champêtre, paradis miniature où le théâtre et la fête font oublier les soucis de la cour, la famine du royaume et la dette de l'État. On s'était inspiré du parc d'Ermenonville, de sa conception simple, naturelle, s'adressant directement aux yeux, à l'esprit et à l'âme, et qui lui-même avait puisé son inspiration dans La Nouvelle Héloïse, le roman de Jean-Jacques Rousseau. Ainsi, par ce qu'elle a de plus ridicule et peut-être de plus charmant, Marie-Antoinette effleure l'auteur du contrat social. Et tandis que les princes ne se refusent rien, les finances du royaume s'assèchent. La France fait carême. Commence alors une furieuse et chaotique course à l'impôt, la taxe, le tribut, la redevance sont un même hurlement froid et monotone. D'un côté, il fleure le parfum, la fumée montre des lustres, d'un autre, il pue la sueur et la chandelle. Il y eut alors une valse, les ministres des Finances se succédèrent à une cadence effrénée, on gouvernait à coups d'expédients. Banqueroute partielle, imposition prétendue provisoire mais qui se prolongeait sans fin. Le trésor était vide, mais on ne savait le montant exact de la dette. Pour calmer les esprits, la cour annonça qu'elle allait réduire son train de vie. Ce fut une petite révolution domestique. Marie-Antoinette diminua le nombre de ses chevaux, puis elle réalisa sur les articles de sa table et de sa chambre une économie d'un million. C'était avouer le montant faramineux de ses dépenses. Ainsi, durant toute la période qui précède la Révolution, on assiste à de curieuses manœuvres sur les deniers d'État. La dette publique ne cesse de croître et le peuple a faim. On spécule en bourse sur les emprunts. Dans sa richesse extravagante, la France est presque banqueroutière.
Oui, c'est exactement le problème. Alors, puisque les caisses sont vides, il faut trouver moyen de les remplir. Refrain bien connu. Les poches des riches sont pleines, mais inexpugnables. Allons piocher dans celles des pauvres. Et tout de même aussi des moyens riches, comme aurait dit Mao Zedong. Le roi convoque les États généraux pour faire accepter de nouveaux impôts. Les États généraux s'ouvrirent à Versailles le 4 mai. Le lendemain, on se réunit dans une grande salle construite pour l'occasion à l'hôtel des Menus Plaisirs. C'est somptueux. 1139 députés prennent place dans cette salle. Et cette fois-ci, on a besoin d'eux pour lever l'impôt. Il faut que les trois ordres, l'Église, la noblesse et le tiers-État, acceptent, avant que la température ne monte. Le premier jour, le roi paraît, il déclare être le premier ami de son peuple, on voudrait le croire. À sa gauche, Marie-Antoinette Somnol, elle est coiffée d'un panache à plumes blanches. Et enfin, Necker prend la parole. Il se lève, gros, content de lui, fa, comme on disait alors. Aucune des questions vitales ce jour-là ne fut abordée. La réception au menu plaisir fut un four. L'assistance fut très déçue. Le temps passa. L'urgence était de plus en plus vive. Les Français grondaient. Et voici, quelque temps plus tard, que le tiers-État se proclame Assemblée nationale. Le 20 juin, le roi fait fermer la salle des menus plaisirs. Et donc, l'Assemblée part au jeu de paume. Et on prononce de grands mots. On prononce un serment. Le serment du jeu de paume. Trois jours passent. Le roi déclare nulles les décisions de l'Assemblée et demande aux députés de quitter la salle, d'aller se faire voir. Les députés du tiers refusent d'obtempérer. Vous savez, Mirabeau prononce alors sa grande phrase commençant par « Nous sommes ici par la volonté du peuple » et se terminant par « Nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes ». Ah, c'est comme si parfois un homme avait attendu toute sa vie de dire quelques mots, que ces mots le possédaient tout entier et qu'ils portaient en eux, dans le drapé de la formule, un mélange d'évidence et de mystère, de grandeur et de trivialité, où l'humanité trouve son augure. Oui, Mirabeau parle. Il est un sentiment, une vérité. Nul ne peut plus rien contre. Il dit. La volonté du peuple vient de faire son entrée dans l'histoire. Et cinq jours plus tard, le roi cède. Il appelle la noblesse et le clergé à se joindre au tiers. On est réconciliés. Mais le peuple, lui, reste méfiant. Les disputes s'animent. Tout le monde se couche tard. On parle, on n'a jamais autant parlé. Les bouches produisent des mots. Beaucoup de mots, des avalanches. Le 11 juillet, Necker est de nouveau remercié. Il est remplacé par Breteuil, lié au comte d'Artois et à la reine. Finalement, tout le monde comprend ce que ça veut dire. C'est le retour d'une politique d'intransigeance. Et dans la nuit du 11 au 12 juillet, Paris se retourne dans son lit. On dort mal. Le 12 juillet, l'ambiance est électrique. Des groupes se forment un peu partout. On s'interroge, on discute, on proteste. Et puis, dans l'après-midi, au Palais Royal, un jeune avocat de 29 ans, au visage doux, aux beaux cheveux longs, comme c'était la mode, bégaye que la démission de Necker est inquiétante. Camille Desmoulins, c'est le nom du jeune avocat, monte en effet sur une table de bistrot et bégaye son premier discours. Eh oui, il bégayait. Et c'est inouï le nombre de bègues qui deviennent orateurs et le nombre de cancres qui deviennent écrivains. Camille propose au peuple la colère. Il grimpe sur une table, il prépare la Saint-Barthélemy des patriotes. C'est sa formule la plus célèbre, son moment de grâce. Le mot « patriote » devient une sorte de sésame et la foule en est d'accord. Les paroles du jeune homme font écho aux peurs, à l'inquiétude qui monte, au manque de pain. Oui, on prépare la Saint-Barthélemy. Dans une boutique sur les boulevards, on emprunte des figures de cire. On emprunte, oui, quelque chose qui ressemble au buste du duc d'Orléans, de Necker. On les promène dans les rues. Et on cause en les promenant. Les bustes passent, grotesques. Et les manifestants gagnent les Tuileries. Et sous les ordres du prince de Lambesque, un régiment charge la foule. Une journée est un signe, et les signes sont ambigus, contradictoires. Tandis que le peuple se libère, la chanson du faubourg supplante la gavotte, mais les cavaliers chargent. On frappe. Oh, sans vouloir tuer ce jour-là, on cogne, on bouscule. Les femmes courent entre les haies, tout le monde recule. Un colporteur, traîné par les cavaliers, se prend un coup de baïonnette. Et les gens improvisent des barricades de chaises, de bâtons, de caillasses. C'est l'intifada des petits commerçants, des artisans de Paris. Et les gardes françaises, parmi lesquelles la grogne avait monté chaque jour, la garde française se rallie aux émeutiers. Depuis l'affaire Réveillon, on avait discuté les ordres. On ne pouvait plus tirer sur la foule. On y avait des frères, des sœurs, des amis. Alors, apprenant ce qui se passe aux Tuileries, les soldats quittent leurs casernes, se heurtent aux troupes royales et soutiennent les émeutiers. Paris est désormais au peuple, tout chaviré, se baignant aux fontaines. La nuit est tombée, de petits groupes marchent sur les barrières. Ce sont des bandes d'ouvriers, de menuisiers, de tailleurs, des gens ordinaires, mais aussi des portefaix, des sans-emploi, des argotiers sortis tout droit de leur échoppe. Et dans la nuit de la grande ville, il y a alors des étincelles, il y a des incendies. L'octroi fut incendié. Un octroi, puis un autre, encore un autre. Les barrières brûlent. Ce qui brûle projette sur ce qui nous entoure un je ne sais quoi de fascinant. On danse autour du monde qui se renverse. Le regard se perd dans le feu. Nous sommes de la paille. Eh oui, le peuple est en armes et le peuple a faim. Alors,
le 13 juillet au matin, à l'hôtel de ville, les bourgeois inquiets se réunissent. Ils montent un comité et décident de la création d'une milice armée. À la même heure, le roi part à la chasse. Son cheval galope dans les bois, ses gens rameutent les chiens. Sa jappe, le cerf court dans les fourrés. Alors, les Parisiens cherchèrent des armes. Ils craignaient le retour des troupes. Une curieuse idée sur laquelle on tomba dans le tourniquet de l'action fut d'aller au Mont de Piété. On se rua aux objets gagés, comme si on allait y trouver réponse à tous les problèmes. Une vérité perdue depuis longtemps, qu'un pauvre Brougue serait venu un jour mettre en gage. Et en effet, au Mont de Piété, entre les montres suisses, les dentelles fines et les vieilles cannes, on dénicha tout un lot d'armes anciennes. Ce sont les pistolets de Mathusalem, les mousquets du déluge. La foule s'arme quand même. Le matin, on avait dévalisé le garde-meuble de la couronne. Un flot bariolé glissa par ses nobles arcades. On se bouscula dans les grands escaliers et les somptueux salons, puis on déboucha dans la salle d'armes. Une foule ahurie arracha à leur niche deux canons de parade, présents du roi du Siam. Imaginez ces gueules exotiques, damasquinées d'argent, sur leurs affûts de bois des Indes, vernis de noir. On les traîne de marche en marche, on les fait glisser sur les rampes. Alors, les poings dérobèrent leurs armes aux casiers d'acajou. Les lances dorées des anciens preux passèrent aux mains des tanneurs et les casques des chevaliers ornèrent les têtes des grisettes. Quelques-uns se couvrirent sans doute en riant de lambeaux d'armure de Philippe Auguste, puisqu'on devine sur un tableau du temps la silhouette incongrue d'un chevalier dans les rues de Paris. Depuis quelques jours, les boutiques d'armuriers étaient enfoncées, pillées. Les minutes du Châtelet font un horrible lamento. Une boutique a été ouverte ici, les portes crevées là, des barils de poudre volés ici, des couteaux fauchés là. Un commerçant est réveillé en pleine nuit, une bande fait irruption chez lui, ils veulent des fusils, des pistolets. Partout errait une foule bizarre armée de briques et de brocs. Et voici, arpentant le faubourg, le fils des Lumières, armé de mousquets et de piques, mais aussi de pétoirs à mèche et de fusils à rouet. On sait à peine comment s'en servir, ce sont des antiquités venues de François Ier. D'autres brandissent des haches, des surins rouillés, de pauvres caniches.
Canifs.
On est heureux et on défile sous le grand soleil. Enfin, par une idée saugrenue et sublime, les foules allèrent jusqu'à forcer les portes des théâtres. Elles pénétrèrent les magasins d'accessoires et firent de leurs répliques de scène de véritables armes. On brandit les boucliers de Dardanus et le flambeau de Zoroastre. Les fausses épées devinrent de vrais bâtons. La réalité dépouilla la fiction. Tout devint vrai.
Tout devint vrai et surtout, justement, le peuple en armes. Alors même si certaines de ces armes sont des armes d'opérette, eh bien oui, ce peuple qui avait faim, maintenant, il détient des armes. Alors, en attendant ce qui va advenir de ce peuple en armes, nous allons écouter une ballade de l'époque, une ballade que vous connaissez. Il pleut, bergère. Mais cette ballade, écoutez-la bien. L'orage gronde et les jeunes amoureux prennent des libertés étranges pour l'époque. Donc finalement, l'auteur, qui est un libertin et qui d'ailleurs trouvera plus tard quelques accommodements avec le service de la République, eh bien cet auteur, il perd un peu la tête. Enfin, il la perdra surtout sur l'échafaud 3 ans après. Mais dans la chanson qui finit bien, alors peut-être qu'il faut retrouver l'autre histoire. L'autre histoire qui finit à Paris le 14 juillet par la prise de la Bastille.
Il pleut, bergère, presse tes blancs moutons. Allons sous ma chaumière, bergère, vite, allons. J'entends sur le feuillage l'eau qui tombe à grand bruit. Voici, voici l'orage, voilà l'éclair qui luit. Entends-tu le tonnerre, il roule en approchant. Prends un abri, bergère, à ma droite en marchant. Je vois notre cabane, et tiens, voici venir ma mère et ma sœur Anne, qui vont l'étable ouvrir. Bonsoir, bonsoir, ma mère, ma sœur Anne, bonsoir. J'amène ma bergère près de vous pour ce soir. Va te sécher, mamie, auprès de nos tisons. Sœur, fais-lui compagnie, entrez, petit mouton. Soignons bien, ô ma mère, son tant joli troupeau. Donnez pluie de litière à son petit agneau. C'est fait, allons près d'elle, et bien donc te voilà. Encore c'est qu'elle est belle, ma mère, voyez-la. Soupons, prends cette chaise, tu seras près de moi. Ce flambeau de mélèze brûlera devant toi. Goutte de ce laitage, mais tu ne manges pas. Tu te sens de l'orage, il a lassé tes pas. Eh bien, voilà ta couche, dors-y jusqu'au jour. Laisse-moi sur ta bouche prendre un baiser d'amour. Ne rougis pas, bergère, ma mère et moi, demain, nous irons chez ton père, lui demander ta main.
C'est gentillet, l'orage de la bergère. L'orage du 14 juillet, c'est tout autre chose.
La nuit du 13 juillet 1789 fut longue, très longue, une des plus longues de tous les temps. Personne ne put dormir. Autour du Louvre, de petits groupes erraient, mutiques, dans une sinistre maraude. Les cabarets ne fermaient pas. Sur les quais, des solitaires pérégrinèrent toute la nuit, ombre bizarre. Il faisait une chaleur écrasante. On ne pouvait pas trouver le sommeil. Dehors, on cherchait un peu de vent, un peu d'air. Paris entier ne dormait pas. Ce fut l'un des plus beaux étés de tout le siècle. Un des plus chauds aussi. On rôtissait. Mais l'hiver avait été froid, si froid, les racines avaient gelé à plus d'un pied sous terre. La faim s'était étendue sur la France, silencieuse d'abord, puis le désespoir était venu, puis la colère. Et maintenant, il faisait très chaud, trop chaud. La nuit, les jeunes sortaient fouiller la ville. C'était de longues tournées depuis les faubourgs. La France était alors un pays jeune, incroyablement jeune. Les révolutionnaires furent de très jeunes gens, des commissaires de 20 ans, des généraux de 25 ans. On n'a jamais revu ça depuis. Et cette jeunesse impatiente, le 13 juillet, fut incapable de dormir. Beaucoup de Parisiens ont à peine de quoi acheter du pain. Un journalier gagne 10 sous par jour, un pain de 4 livres en vaut 15. Mais le pays, lui, n'est pas pauvre, il s'est même enrichi. Le profit colonial, industriel, minier, a permis à toute une bourgeoisie de prospérer, et puis les riches paient peu d'impôts, voire pas du tout. L'État est presque ruiné, mais les rentiers ne sont pas à plaindre. Ce sont les salariés qui triment pour rien, les artisans, les petits commerçants, les manœuvres. Enfin, il y a les chômeurs, tout un peuple affamé. Des bandes s'étaient formées autour de la capitale. Pendant les derniers jours d'avril, les commis virent entrer par les barrières un nombre effrayant d'hommes mal vêtus et de figures sinistres. La plupart déguenillés, armés de grands bâtons. Il en venait de 30, 40, 50 lieues, et tout cela s'engouffrait dans Paris. On raconte encore que depuis la veille, ces misérables parcouraient les rues en bande, menaçaient les maisons où les bourgeois s'enfermaient ahuris et tremblants. Avec des cris de mort, une autre troupe vint à la force, où sont les prisonniers pour dette, on les délivre, un groupe d'hommes en guenilles enfonce à coups de hache la porte des lazaristes, ravage la bibliothèque, brise les armoires, les tableaux, tout. La rue est pleine de débris et de pauvres bougres. Quelques-uns se sont emparés d'une aube, d'un bâton de préchantre, d'un pluvial, d'une chasuble, d'une crosse, les ont revêtus et sous cet accoutrement dans la rue bénissent les passants. Pendant la nuit du 13 au 14 juillet, la canaille, comme on dit, les plus pauvres en somme, ceux que l'histoire a jusqu'alors laissé croupir dans le caniveau, armés de fusils, de broches, de piques, se font ouvrir les portes des maisons et se font servir à manger et à boire. Désormais, la charité ne suffira plus. Ce sont des vagabonds d'une physionomie effrayante, disent les chroniqueurs. Des bandes de bourgeois circulent pour rétablir l'ordre et on pendit aux lanternes quelques pauvres, çà et là, que l'on achevait à coups de fusil. Les cloches sonnent. Le bourdon vomit son fa dièse. Puis, c'est presque 3 mètres de bouche, celui de Notre-Dame, qui ne sonne qu'aux grandes occasions, réverbère sur les murs de toute la cité les lourds battements de son cœur vide. C'est le tocsin, à la fois grave et rayonnant, à la fois mâle et aigu. Il mêle tous les timbres dans sa panse, il pique l'oreille et crève le corps de ses basses. Ainsi la sédition. Elle surgit dans le monde et le renverse. Puis sa vigueur faiblit, on la croit perdue. Mais elle renaît un jour. Son histoire est irrégulière, capricante, souterraine et heurtée.
À l'aube, on prit le chemin des Invalides. On voulait des fusils pour se défendre contre les armées du roi. De toute la ville, des petits groupes se formèrent en direction du Champ de Mars. Vers 9 heures, des milliers de personnes se tenaient déjà derrière les grilles. Il y eut quelques coups de feu. Le marquis de Sombreuil parlementa. Mais de minute en minute, la foule était plus dense, plus nombreuse. Les grilles se mirent à trinquer dans leur socle de pierre. Et bien sûr, tout d'un coup, il y eut plusieurs milliers, des milliers de personnes. Hé hé, c'était pas un monôme d'étudiants. Et Versailles était muet, trop loin. Le vieux marquis de Sombreuil ne savait plus quoi faire. Il finit par ouvrir les portes, les grilles. Sans doute pour causer au départ, mais on ne tient pas une foule en laisse. Une foule ne parlemente pas, ne discute pas et ne veut pas attendre. Les jeunes qui sont là se bousculent et ceux qui sont à l'arrière ne voient rien, donc ils poussent vers l'avant, quelquefois en riant « Allez, allez !» Et l'instant arrive, laconique, les gonds se tordent, la foule braille, les paroles de Sombreuil se perdent entre les pavés. Personne n'entend ce qui est dit, les gardes ne peuvent plus tenir et le nombre a tranché. Ça y est, tous les sexes, tous les âges, tous les métiers, toutes les gueules possibles, tout le monde a enfoncé les grilles. Déplombant les arches, riant, hurlant, inondant la grande cour. C'est beau, les Invalides. Les corbeilles de fruits, les cornes d'abondance, les grandes fenêtres, les arcades. Et là, les vétérans abrités à l'hôtel des Invalides, se rallient aux émeutiers. Les destins des vieux et des jeunes se touchent. Les vieux guident les jeunes parmi les dédales du palais. Et c'est une immense farandole, les couloirs, les escaliers. On descend, on remonte, on se perd, on revient. Ivre, bousculé de toutes parts, on s'enfonce dans les souterrains avec des kilomètres de boyaux, enfin au moins des centaines de mètres. On trouve des fusils qui sont là, entreposés, 30 000 fusils couchés sur leur lit de paille. La confusion est terrible, on s'écrase, on s'étouffe, on crie encore. D'autres remontent, d'autres descendent. Et quand on ressort, mains en visière, ébloui, on se fraye un difficile chemin vers le soleil. On ressort de sous terre. Ah, Dieu, que c'est beau un fusil, que c'est vertical. On dirait un outil, un sceptre. Et à l'autre bout de Paris, la Bastille. La Bastille.
Huit tours, qu'un mur relie, 3 mètres d'épaisseur, le mutisme, la surdité, peu d'ouverture, aveugle, la citadelle, très haute, construite en 12 ans, de portes, elle devint bastide, flanquant la ville, fausse porte donc, forteresse, entrepôt, arsenal, coffre-fort, prison, elle a ses oubliettes, comme tous les châteaux de son temps. Ce qui frappe tout d'abord, c'est une disproportion. Entre le quartier Saint-Antoine, les petites maisons, les cabanes derrière, les immeubles même et la Bastille, elle surplombe le quartier, elle le couve. On se demande ce qu'elle fait là, elle sidère. Toute la nuit, des groupes s'étaient formés sous les tours. Dans la citadelle, les gardes n'étaient pas tranquilles. Des coups de fusil avaient claqué dans le vide. Une foule muette et récalcitrante errait autour des murailles. On savait que la poudre était là, que le gouverneur de Launay l'avait fait transporter nuitamment depuis l'arsenal à la forteresse et qu'il avait pris d'autres précautions comme ces brouettes de pavés qu'on avait vues charger en haut des tours. Très tôt, les émeutiers du faubourg étaient venus de plus en plus nombreux. Des enfants s'amusaient dans le ruisseau, des chiens aboyaient. Il y avait aussi de grandes mouettes. Ah, nous ne pourrons jamais savoir, nous ne saurons jamais quelle flambée parcourut les cœurs, quelle joie. Dès le matin, l'attroupement avait grossi autour de la Bastille. Il y eut des chiens qui aboyaient, un mulet qu'on tirait vers Paris, des jeunes gens ivres. Oui, il y avait des vieux très pauvres, des commerçants très gros et des jeunes filles très belles. On dirait que l'eau monte et soudain les coudes se touchent, la rumeur est énorme. Ah, comme ça enfle! Et ces jeunes gens dépeignés, là, qui se marrent! Et cette vieille mère qui se mouche dans son tablier! Il n'y a rien de plus beau et de plus grisant que le petit jour. Un vent frais soulève les chevelures, gonfle les chemises. On arrive de tous les coins de Paris, inquiets mais heureux. Une foule déjà nombreuse avance jusqu'aux baraquements qui bordent la Bastille. Ils aperçoivent les fusils braqués du haut des tours. Eux n'ont que des bâtons, des pavés, quelques fusils, bien peu de poudre. On fraternise avec les gardes françaises et tous ceux qui se tiennent au pied de la forteresse. C'est une ambiance curieuse, électrique. On se sent proche sans se connaître. On échange quelques mots, on rigole. Quand soudain, depuis la Bastille, partent des coups de feu. Deux hommes tombent, morts. Un garçon de 15 ans a le bras percé. La foule se répand par le chemin tournant, le long des boutiques. On se blottit contre les murs de la cour. On se disperse en poussant des cris. Un type fait de grands gestes de ralliement. Il poste quelques hommes le long des casernes qui font aussitôt feu sur les tours. Mais les balles éraflent la pierre. Soudain, les gardes françaises sortent de leur retraite et tirent en direction de la Bastille.
Oui, les gardes françaises, on l'avait déjà vu, prennent le parti du peuple parce que ce sont des régiments qui sont issus du peuple. Donc les gardes françaises, une fois de plus, prennent le parti des émeutiers. Vers 10h30, les émeutiers, venant des Invalides, on vient de le voir, déboulent par toutes les rues environnantes. Les places se remplissent, les abords de la prison sont bondés, et cette fois les hommes sont armés. Une rumeur circule, un gamin court entre les groupes. Il gueule qu'un bataillon du roi arrive par le nord. Alors on discute sur les pas de porte, on se hèle. Il faut bien réagir. Mais ce ne sont pas les armées du roi qui entrent dans Paris, ce sont les hordes de déserteurs. On dit qu'il y eut ce jour-là plus de 200 000 personnes autour du monstre, autour de la Bastille. 200 000 personnes, ça représente la moitié de la ville, une fois retranchés les nouveaux-nés, les vieillards et les malades. Cela veut dire que tout le monde est là. Ce doit être une foule prodigieuse, une sorte de totalité. On n'avait jamais vu ça. La totalité se dérobe habituellement, mais ce matin-là, le 14 juillet, tout le monde est là. Il y a les hommes, les femmes, les ouvriers, les petits commerçants, les artisans, les petits bourgeois, les étudiants et bien sûr les pauvres. Et même, on l'a vu, les brigands qui arrivent de l'extérieur ou les brigands de Paris, enfin, attirés tous par le désordre et l'opportunité incroyable. Tout le monde, oui, une chose aussi difficile à nommer, mais finalement jubilatoire. Dans la forteresse, l'inquiétude grandit. Le gouverneur grimpe sur une des tours. Il entend l'immense foule râler, ahaner tout en bas. Il la voit, oui, il la voit comme un lavis bouillant. Il faut se figurer une foule qui est une ville qui est un peuple. Il faut imaginer la stupeur du gouverneur et de ceux qui, là-haut, en haut des tours, n'ont jamais vu ça. Il faut imaginer le ciel obscur, orageux, le lourd vent d'ouest. Vous savez, l'orage qui gronde. Les cheveux qui collent au visage, la poussière qui rougit les yeux. Et cette foule de toutes parts, au bord des fossés, au bord des ruisseaux, aux fenêtres des maisons, dans les arbres, sur les toits. Oui, partout. Le 14 juillet 1789, la Bastille est assiégée par Paris. La Bastille est assiégée par Paris, oui. Mais des événements, de la foule, que sait-on? Au fond, pas grand-chose.
Au fond, le 14 juillet, on ignore ce qui se produisit. Les récits que nous en avons sont un peu empesés ou lacunaires. C'est depuis la foule, sans nom, qu'il faut envisager les choses. Et l'on doit raconter ce qui n'est pas écrit. Il faut le supputer du nombre, de ce qu'on sait de la taverne et du trimard, des fonds de poche et du partois des choses. Ils sont là, à la Bastille, il y a de plus en plus de monde dans les rues, tout autour. Ceux qui ne possèdent pas de fusils se sont armés de bâtons, de méchants bouts ferrés, de merlins, de tire-bouchons, qu'importe. Depuis l'Arsenal jusqu'à Saint-Antoine, les quais et les rues sont noirs de monde, les gueux, les décrotteurs, les cochers, tous les campagnards venus chercher pitance à Paris sont là. Les étudiants arrachent les pieux des palissades, les pieds des tabourets, les bras des charrettes. On saute, on crie, de lourds nuages roulent sur le ciel.
C'est la foule populaire. Éric Vuillard la décrit par ordre alphabétique, par des noms recensés à l'époque. Des hommes, des femmes, des processions, des professions, des régions, en fait un ensemble assez hétéroclite. Revenons donc à cette foule. Cette foule, elle est devant la Bastille. Elle est devant la Bastille. Et oui, par exemple, Roger, ces deux misérables syllabes qu'on a tant hélées depuis, devant les zincs, dans toutes les usines de France et de Navarre, du fond du mutisme effrayant des choses écrites. Oui, ce jour-là, on lance des noms, on lance des sons. Et il faut abandonner les traces écrites. Il faut s'écarter des archives. Il faut tomber dans le grand baquet où finalement plus personne n'a de nom. On est dans la foule. On est devant la Bastille.
Les nuages giflent le ciel. Le vent siffle par les rues, se tortille sous les toits et fait de grandes écharpes de poussière. On cligne des yeux, on respire derrière un pan de veste. Une immense excitation a gagné les faubourgs. On craint les régiments royaux qui encerclent Paris. On se souvient de Réveillon, des 300 morts. On ne veut plus se laisser faire. Certains racontent que le prince de Lambesque fond sur l'hôtel de ville. Il faut des armes et de la poudre pour se défendre. Et sans cesse, de nouveaux groupes d'ouvriers et d'artisans, d'hommes et de femmes, franchissent la porte Saint-Antoine. On s'écarte. Une délégation de l'hôtel de ville avance au milieu de la foule. Les soldats repoussent les curieux. Il y a autour d'eux une grande multitude et ils ont bien du mal à se frayer un chemin. On se moque un peu d'eux, on rit, on les bouscule gentiment. Voyant la foule immense qui suivait, le gouverneur de la Bastille leur fit savoir qu'ils ne pouvaient entrer que tous les trois, qu'il allait fournir 4 bas officiers en otage. Enfin, la petite députation fut reçue. Elle exigea poliment que Delaunay retire les canons qui menaçaient la ville. Les canons sont retirés des embrasures. Le gouverneur invite la députation à déjeuner. Mais la foule ne se calme pas. On est monté sur les toits, on a grimpé sur les réverbères et à propos des 3 types entrés dans la Bastille, on commence à se poser des questions. Les gens parlent, disputent, argumentent. Chaque instant, la foule s'épaissit. Elle est de plus en plus dense. Les émeutiers des Invalides sont arrivés avec leurs fusils et réclament de la poudre. Une deuxième délégation se ferait difficilement un chemin. C'est la plus célèbre des 4 députations qui eurent lieu ce jour. Entre le peuple et qui s'en improvise l'émissaire, il existe aussitôt un fossé. Toute la révolution est déjà là. La plaine ou la montagne? La constituante ou la convention? L'atermoiement ou la volonté populaire? Il est 11h30 du matin.
C'est ce qui fait un peu le jeu de prise ou pas prise de la Bastille. C'est ce qui fait le jeu du commandant de la forteresse face à la foule. Il y a 1, puis 2, puis 3, puis 4 délégations envoyées par l'hôtel de ville. On voudrait bien finalement, du point de vue des bourgeois, du point de vue de l'armée, du point de vue effectivement des régiments royaux, que le peuple ne prenne pas la Bastille, ne prenne pas le pouvoir. Donc, que se passe-t-il à la Bastille ? 2 nuits auparavant, les Suisses avaient transporté 250 barils de poudre. Et la foule le sait finalement. On avait roulé ces tonneaux de poudre vers l'intérieur. Et les soldats les avaient descendus dans les souterrains. Delaunay, à l'intérieur, craignait bien que les émeutiers ne se saisissent de cette poudre. Que faisait-il maintenant ? Comment pouvait-il réagir ? Il ne se passa rien pendant un long moment. Le sable rougissait les yeux. Tout le monde attendait. Et puis, subitement, l'assaut commença. L'assaut commença de partout et de nulle part.
Il se fit comme un coup de fusil, comme une caillasse jetée. Les cris aussi jouèrent leur rôle, les jurons jouèrent leur rôle. Ce fut une grande guerre de gestes et de mots. La foule mouvante, expressive, avait lancé des pierres, de vieux chapeaux, c'était un horrible tintamarre, et puis des coups de feu quand même. Et le marmonnement de la foule qui devenait intelligible, la foule scandait d'une voix grave « Assassin ! Assassin ! Assassin !» Les gens ressortaient lentement de sous les auvents, puisqu'on leur avait tiré dessus, qu'il avait bien fallu s'abriter. Ils ressortaient d'un peu partout et de petits groupes se détachaient de l'ombre. Et l'assaut continuait, l'assaut en criant « Assassin !» La parole ne laisse pas de traces, mais elle fait des ravages dans les cœurs. On se souvient toute une vie d'un mot, d'une phrase qui nous a touchés. À l'intérieur de la forteresse, les soldats reculèrent. Ils quittèrent les murs, ils quittèrent les murailles, et à partir de ce moment-là, on ne comprit plus rien. Finalement, tout se précipite. Un chemin faisait le tour à l'extérieur des fossés. On marcha sur ce chemin. Il montait vers les tours. Et le charron tournait. Le charron, il était le premier. Il portait un gilet bleu. Il avait 20 ans. 8 à 10 autres le suivirent. Ils enjambèrent les toits d'une échoppe. Une échoppe appuyée au mur. La foule les apostropha. On rigola, on les encouragea. Encore tout un raffut. Tournait, grimpa sur le toit du corps de garde. Les copains le hélèrent, lui dirent « Allez, allez !» Et soudain Tournet, oui, Tournet, oublie tout. Il y va, il fonce, il vacille près d'une cheminée, il se rattrape, il s'accroupit, on ne le voit plus. Ah, il a sauté dans la cour. Il est seul. La cour du gouvernement est vide face à lui. Il est alors juste une ombre, une silhouette. Les soldats sur les tours le regardent, il a sauté dans la cour. Et un autre camarade saute à son tour. Ils sont deux, ils sont trois à présent. Oui, Aubin et Louis sont entrés. Ils sont entrés même dans le corps de garde. Ils jettent les tiroirs à terre, ils ouvrent des portes, ils cherchent des clés, mais ils ne trouvent rien. Ils reviennent vers le pont-levis. Pendant ce temps-là, les autres arrivent de toutes parts, du chemin tournant, du haut de l'échoppe, du toit de l'échoppe. La cour est pleine de monde. Tournet ne voit plus rien, il n'entend plus rien. Ah si, il y a des coups de hache sur les portes. Et oui, bien sûr, des voix crient de faire plus vite. Les voix l'encouragent. Alors à coups de merlin, à coups de hache, il reprend des coups sur la porte. Les poutres vacillent, puis tombent. Le pont-levis s'abat sur le fossé. La foule recule devant ce nuage de poussière. Le tablier rebondit avec fracas. Tournait s'appuyer au mur, sonnait, heureux. Plus personne ne pense à lui, mais on se presse dans la foule. La foule est dans la cour. Voilà, l'épopée a duré quelques minutes. Le chaos est indescriptible. Les assaillants, là, sont entrés, s'abritent derrière les gardes-corps. Falaise, Tournait encore, d'autres. La fusillade reprend, puis cesse. La cour est jonchée de cadavres. Que se passe-t-il? Il y a un silence étrange. Chacun s'est planqué, chacun hésite à quitter sa planque, et puis finalement, chacun se risque à nouveau à découvert. Il y a de nouveau une petite délégation. Qu'est-ce que c'est cette délégation? Encore des députés qui parviennent au pied de la citadelle. On les laisse entrer, ils sont à l'intérieur de la forteresse. Mais il y a encore des coups de mousquet, on les entend mal. Et la garde ordonne que le peuple se retire pour laisser passer cette délégation. Encore une délégation? Oui. Encore le peuple qui avance, qui se retire, les quolibets qui fusent. Les délégués, on les insulte, on les siffle. Un petit air méchant. Et puis, finalement, cette députation, elle rebrousse chemin. Elle a eu peur. Mais l'un d'entre eux surgit. Il prend sa canne. Au bout de la canne, il y a un mouchoir blanc. Il agite son mouchoir blanc. Des dizaines de milliers d'esprits fermentent, mais lui, un de ceux de la députation, Il agite son mouchoir blanc. Bon, le coup du mouchoir fit un flop. Le petit numéro n'avait pas pris. Le public continuait à tirer des coups de mousquet sans vraiment prendre attention au spectacle. Alors, ils sont là, ils sont agités, tous. Aimablement, on fait de nouveau requête aux assiégeants de ne plus tirer. On leur demande de cesser. Et la députation reprend, et la discussion reprend. Que se passe-t-il vraiment ? Rien ne se calme. Coup de mousquet tiré du haut, tiré du bas. La foule exaspérée met le feu. On commença par brûler deux charrettes de fumier qui se trouvaient là. Un serpent épais roule sur les pavés, rampe le long des murailles. Les yeux piquent, on crache ses poumons, on tire son tablier devant sa bouche. Le brouillard envahit la cour. Personne ne voit plus rien. La Bastille disparaît dans la brume. Et on a mis le feu, oui, on a mis le feu non pas au château, mais aux dépendances. Les yeux se perdent dans les contours. On dirait que le feu va prendre forme, devenir signe, figure. Il figure, oui, il figure des images. Que se passe-t-il encore ? À l'intérieur de la forteresse, il y a un instant d'épouvante. Les canons étaient braqués sur les tabliers de bois, ils auraient pu les éventrer d'un instant à l'autre. Mais finalement, après le foin, après le fumier, des voitures brûlent et leur fumée encore pique les yeux. Les canons, ben non, les canons ne peuvent plus faire feu. Soudain, les émeutiers qui se trouvaient là furent bien étonnés de voir éclore, tout doucement, un trou dans le tablier du grand pont-levis. Oui, il s'était fait là, avec le feu. Et puis, un petit message avait été glissé. Un petit message, qu'est-ce que ça pouvait bien être ? On ne pouvait pas l'attraper, il était trop haut. Ce fut un instant de flottement. Oui, Stanislas Maillard, en équilibre, il a monté sur le pont-levis, il a, avec ses bras en balancier, saisi le message. Et ce message, que disait-il ? Nous avons 20 milliers de poudre, nous ferons sauter le quartier et la garnison si vous n'acceptez pas la capitulation de la Bastille. Nous acceptons ! Lança aussitôt Élie. Par l'un de ses élans généreux. Mais il y eut un cri général, une réprobation. Ce fut un instant de flottement. On ne voulait pas d'une capitulation où les assiégés sortaient avec les honneurs. On exigeait une reddition, pure et simple. Le gouverneur, accompagné de 4 invalides, descendit sous la voûte et tira de sa poche une clé. Il hésitait encore. La foule criait « Baissez les ponts ! Baissez les ponts !» Ben oui, il n'y en avait qu'un pont-levis qui avait été baissé. Une rumeur incessante tournoyait dans l'air. On allait de nouveau faire feu. Mais finalement, Launay, à bout de force, et sans tout à fait comprendre, donna l'ordre d'abaisser le petit pont. Oui, voilà, ça y était. Les portes étaient ouvertes. Le pont-levis, si longtemps clos, avait été abaissé. Toutes les pauvres portes qui s'étaient interposées entre la foule et la forteresse étaient tombées. La Bastille était devenue une simple maison, à la porte de laquelle un monde avait frappé. Scène irréelle, le portier de nuit, comme le veilleur d'un hôtel, qui arrive en bâillant, un invalide, était arrivé, il avait entrouvert et demandé poliment ce qu'on voulait. Et donc, il avait ouvert la porte. Ce fut un déluge d'hommes. Il devait être un peu plus de 5 heures quand la foule se rua dans la Bastille. Dans la cour intérieure, les invalides, les gardes suisses laissaient la foule passer. Les émeutés criaient « Bas les armes ! Bas les armes !» On s'est jeté sur les murs. On s'est jeté sur les murailles. Bas les armes, bas les armes. La Bastille n'est plus, Paris peut entrer. 14 juillet au soir, la Bastille est tombée. Quelques semaines après, on abolit les privilèges. Et pourtant, vous verrez la semaine prochaine, avec nous et avec une rediffusion de Joseph Pontus, que la misère existe encore.